Pau 850, Pierre Bertrand.
FM 93, ça me parle.
Ça me parle de ce qui m'intéresse, ce qui se passe dans ma ville. 93. Ça me parle avec Sylvain Bouchard, Doc Mailloux, José Arsenault, Myriam Segal, Luc Lavoie, Éric Duhem, Dan Pou, Paul Raphaël Charon, Marc Boilard.
93.
C'est mes enjeux, mes intérêts, ma vie. Ça vient me chercher, ça m'interpelle. Ça me parle.
FM 93, ça me parle.
Égal la voix, le midi.
Ici Myriam Segal. Maxime Bernier tire à boulet rouge sur tout ce qui bouge et même sur ce qui bouge plus ben, comme Steven Harper. Vos primes d'assurance auto vont augmenter. Et la vraie vie des intervenants de la DPJ.
FM 93, ça me parle. On développe les dossiers, les enjeux sociaux, la vie en général. FM 93, vous écoutez Segal la voix, le midi.
Il est 11h01. Bonjour, Luc Lavoie.
Salut, Myriam.
Il fait sombre, fallette, fait triste.
Oui, c'est vraiment triste. Là.
C'est vraiment là, un temps épouvantable. Et il y a encore une vingtaine de pannes dans la région de Québec.
Une vingtaine, dis-tu?
Oui, mais c'est réparti, là, mais il y a encore des pannes à la grandeur de la région de Québec.
Non, mais je veux dire, partout. Ça touche plus que 20 personnes, là, quand tu dis 20 pannes.
Et il en reste 4 000. Il y en avait 11 000 ce matin, il en reste 4 000, pas de courant, mais sur 25 pannes.
Ah bon, je comprends.
Tu comprends, là? Il a vanté. C'est vraiment le
comme on disait à Rimouski, il a vanté pour écorner les bœufs.
Ouais, mais à Rimouski puis Rivière-du-Loup, ils vendent tout le temps. La ville des vents, à part Chicago, c'est ça, là. Tu sais, je suis jamais allé à Rivière-du-Loup sans qu'ils vendent. T'as juste?
Mais à Rimouski, tu as juste à t'éloigner un peu du fleuve, tu rentres vers l'intérieur, ils vendent.
Ben, ouais, c'est ça qui est beau, le fleuve, à Rimouski. Le reste, bof.
Qu'est-ce qu'il y a contre? Qu'est-ce que t'as à dire contre le reste?
Ben, ce qui rend Rimouski majestueux, c'est le fleuve.
C'est la beauté des lieux, c'est la qualité de sa population, c'est le dynamisme de la ville.
Excusez.
Écoute. Ah ouais, attention, là.
Mais on a vraiment un temps déplaisant, là.
C'est comme on imagine l'automne à son pire, là.
Oui, mais vraiment à son pire, parce que là, t'as de la pluie. Tu sais, les autres jours, il vente, il fait, le ciel est lourd, il mouille de temps en temps, mais là... Ça arrête pas. Bof. J'aime pas ça. Puis c'est rien, là. Michael est en train de passer sur la Georgie, là. Puis après ça, ça va monter vers chez nous.
C'est parce que quand tu dis Michael, je pense à l'eau chaude.
Michael. Excuse. Michael. L'eau chaude. C'est vrai qu'on a deux tornades en même temps. Michael. Raven et Michael. qui est en train de remonter tranquillement vers chez nous. Et c'est, tu sais, des fois, on a juste la queue de l'ouragan, mais c'est assez pour te rendre une fin de semaine détestable.
Mais en tout cas, là, c'est... Mais je me pose toujours la question, y a-t-il plus d'ouragans ou plus de couverture médiatique des ouragans?
Ah, moi, je pense qu'il y a plus... On est atteint du syndrome, moi, j'appelle ça le syndrome météo-média. Depuis qu'il y a un canal de météo qui ne fait que ça, faut bien dramatiser les choses, sinon tu vas en quoi? Fait que là, tu dramatises tout, là. Tu dramatises la canicule avec l'indice UV qui va donner le cancer à tout le monde. Tu dramatises l'hiver avec le facteur éolien qui livre pas de courrier, mais qui...
C'est ça, le facteur. Bon. Moi, je dis seulement... Est-ce que le facteur... Quelqu'un me dit parfois, « Hey, il fait moins 36. » Je dis, « Oups, le facteur est passé, d'après moi. »
Ben, c'est ça. Il y a une dramatisation de la météo par les médias. Je suis persuadé de ça.
Là. Ah, ben oui.
Tu sais, quand on dit, « Ah, oh, encore une nouvelle fin de semaine, 40 % de pluie. » 40 % de pluie, si t'avais 40 % de chances de gagner un billet de loterie, tu l'achèterais, là. Tu sais, 40 % de pluie, c'est rien.
Non, c'est rien. T'sais? Mais l'automne, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Faut s'y faire, hein?
Ouais, c'est, disons que Burke, pareil. Parce que tu trouves pas que ça affecte le moral?
Ben oui, ça affecte le moral. Sauf dans notre cas, Myriam.
Oui, nous, évidemment.
Grâce à la présence l'un de l'autre, on réchauffe nos cœurs.
As-tu vu l'espèce de psychodrame de la boîte 61 dans Gaspé? Là, le Parti québécois a maintenant 10 comtés, là.
Donc là, ils peuvent dire « Ouf! »
On est meilleur que Québec solidaire.
Ouf!
En fait, ils viennent de gagner la médaille de bronze.
Ils viennent de gagner la médaille de bronze. Mais c'est vrai que cette histoire de la boîte 61, je ne me souviens pas d'avoir vécu ça.
Écoute,
pour que les gens comprennent, il y a une boîte de scrutin Et la dernière qu'on ouvre, je pense que c'est la dernière qu'ils ont ouverte,
oui. N'est-ce pas? Puis il y a 194 votes libéraux là-dedans.
Personne pour les pas aucun vote pour les autres partis.
Puis là, le Parti québécois se retourne vers son pointage, rappelle des militants, des gens qui avaient dit qu'ils voteraient. Puis des gens sont prêts à aller sous serment dire qu'eux autres, ils font partie du pôle 61 puis qu'ils ont voté pour un autre parti que le Parti libéral.
Ouais. Puis là, bon, il y a eu un recomptage. C'est pas spécifiquement vers la boîte 61 que portait le recomptage. Il portait, c'était un recomptage, quoi, supervision judiciaire. Et bon, le PQ l'emporte, mais ça règle pas le problème. On est-tu dans un pays, sommes-nous dans un pays où ce qu'on peut remplir les boîtes de scrutin avec des bulletins? Tu sais, comme ça se fait, là, dans certains pays moins démocratiques.
Et le très énergique directeur général des élections vient de décider ce matin qu'il allait faire une enquête. Dans un communiqué laconique.
Oui, oui.
Sauf que, il y a d'autres choses que juste la boîte 61 qui est intrigante dans cette histoire-là, Luc. Moi, j'ai vu quelques recomptages judiciaires dans ma vie, là.
Oui.
Mais jamais ça a viré 175 votes. Or là, le libéral gagnait avec 132 votes. Mmh. On a compté la boîte 161 dans le tas. Puis on arrive avec une majorité de 41 votes pour la péquiste.
Ça veut dire
qu'on s'est trompé sur presque 200 votes dans le premier décompte.
Oui, c'est assez particulier, en effet.
Moi, là, j'ai déjà vu des 3, 4, 5... Tu sais, on se rappelle de... Je pense que c'est Jocelyne Ouellet là, qui avait gagné par deux voix.
Oui, dans l'Outaouais, à Hull.
Puis ça avait reviré de bord une dizaine de votes, le recomptage. Mais j'ai jamais vu ça, moi, revirer de bord 175 votes dans un recomptage.
Je pense que ça a beaucoup changé, les méthodes de recomptage aussi. À l'époque de Jocelyne Ouellet, là, on parle d'un recomptage qui avait duré autour d'une semaine.
Ouais.
Chaque vote était contesté. Est-ce que le X ou le check sign ou le barbouillage...
Dépasse de la petite boîte, c'est ça? Ouais,
mais c'était ça. Là. Mais ouais. ça, c'est, ils ne font plus ça. Alors, pour rejeter des bulletins, ça prend vraiment une faute majeure.
Ah, écoute, ils ont viré de bord 175 votes.
Oui.
C'est ça, le résultat global, c'est ça. C'est énorme. Il y a quelque chose qui ne tient pas debout dans cette élection-là.
Non, vraiment pas. Mais j'ai hâte de voir ce que notre très énergique directeur général des élections va nous amener comme résultat à son enquête. Après tout, c'est pas si compliqué que ça. Il doit arriver quelque chose dans la chaîne de commandement, comme diraient mes amis de Valcartier.
Puis c'est facile d'accuser les libéraux, vu que c'est eux qui bénéficiaient des 194 votes. Sauf que c'est dans un quartier plus anglophone de la Gaspésie, d'abord.
Oui.
Deuxièmement, si tu triches, tu vas avoir au moins le génie de mettre quelques votes contre toi pour pas te faire quoi en prendre. Tu sais, je sais pas, moi, il me semble que s'il y a une question de tricherie,
aussi bien tricher avec efficacité.
Ben là, tu sais, il y a pas un tricheur qui va remettre un bulletin avec 100% des bonnes réponses. Il sait bien qu'il va se faire questionner.
Non, écoute, c'est vraiment...
D'ailleurs, j'ai une amie qui s'était fait prendre demain, mais elle était pas bonne en philo. Puis elle m'avait demandé de faire son travail de philo.
Oui.
Mais moi, j'étais dans des disciplines où on était bon en philo. Fait que là, j'avais fait un beau travail, pas de faute d'orthographe, impeccable, bien fait. Quand le prof l'a nommée en avant pour dire qu'elle avait fait le travail le plus remarquable de la classe, elle a fondu, puis elle a avoué qu'elle ne l'avait pas fait.
Félicitations, Myriam. Félicitations.
J'ai travaillé pour rien. mais le fait est que quand tu triches, tu essayes de ne pas te faire prendre. Tu sais, tu mets pas 194 votes pareil dans une boîte. Il s'est passé quelque chose de bizarre.
Très, très mystérieux. Très, très mystérieux, en effet.
Est-ce qu'une boîte a disparu à être remplacée? Si tu la remplaces, remplace-la pas par 194 voix de la même sorte?
Ça n'a pas de bon sens, non. Ça n'a pas de bon sens. Directeur général des élections, qui est lui-même un fin limier, un enquêteur hors pair, va certainement nous apprendre tout ce qui s'est passé.
Ben oui. Hein? Ben oui. On croit ça, nous autres. Mais c'est inquiétant parce qu'on a un système électoral qui est qu'on pense être à toute épreuve de ces tricheries-là. Ce qu'on appelait les télégraphes se font plus.
Ouais.
Tu sais, on a
malheureusement, parce que c'était drôle, tu sais. C'était le bon vieux slogan.
Comment je m'appelle ici, là?
Votez tôt, votez souvent.
Tu sais, le gars est embauché par le parti pour aller voter. Regarde, toi, tu vas t'appeler un tel à tel mode.
Parce qu'il y a une bonne blague que M. Mulroney aimait nous raconter. Lui, évidemment, il était dans la politique depuis qu'il avait à peu près 15 ans. Il parlait des télégraphes à l'époque, sur la rive sud de Montréal, dans les années 60, donc aux élections de 66, quelque chose comme ça. Puis là, ça a l'air que la façon que ça marchait, c'est que les pôles fermaient, les bureaux de scrutin fermaient à 20 heures. Alors, à 19 heures, il y avait comme une gang de bénévoles du parti, dans ce cas-là, c'était l'Union nationale, qui se retrouvait devant leur gars qui avait fait le pointage. Puis là, il disait, bon, OK, toi, tu vas aller voter au pôle numéro 43, telle adresse. Ton nom, c'est, je sais pas, mais quelque chose, tu sais. Oui.
Puis, tu t'appelles Luc Lavoie.
Puis il y avait...
c'est né telle date.
Non, il n'y avait pas de date de naissance. La seule affaire qu'il y avait, c'était la profession.
Okay? Ah, ouais.
C'était la seule méthode de distinction. Alors, la blague allait quelque chose comme ceci. Puis il paraît que c'est vrai, là. Alors, il y en a une espèce de taupin, là, tu sais, un gros baraqué canadien-français, pure laine, tout ce que tu veux. Puis lui, il donne un nom, puis le nom, c'est Li Chi Wang. Bon, il écrit ça, parce qu'il écrivait ça dans leurs mains. Il écrivait ça à l'intérieur de leurs mains, parce qu'il en faisait 4-5. Fait Li Chi Wang. Bon, il écrit ça, Li Chi Wang. Alors, il se présente au bureau de votation. Votre nom? Li Chi Wang. Il le regarde, tu sais. Encore, quoi déjà? Li Chi Wang. Hein, ouais. Il dit profession. Le gars ouvre sa main, puis il regarde à nouveau, puis il se dit, non, j'ai oublié. Il dit, ben, je suis chinois.
Profession chinois. C'est pas fort, hein?
C'était drôle, l'époque des télégraphes.
Oui. Puis il y avait l'époque où on promettait un frigidaire. À la famille qui allait voter du bon bord. Puis là, pour savoir s'il allait voter du bon bord, elle mettait un petit signe. Le gars devait mettre un petit signe sur son bulletin, tu sais, un petit croche à côté de son X ou quelque chose du genre.
Il y avait toutes sortes d'histoires.
Puis là, le scrutateur pouvait certifier à l'organisateur, oui, effectivement, j'ai vu passer le petit signe, ça fait que tu peux lui donner son frigidaire. C'est pour ça que c'est maintenant le système le plus sécuritaire pour voter, parce que tous les trucs, on les a vus, bon, on les a démontés.
C'était drôle, par exemple. C'était une époque. Tu sais qu'en Ontario, il y avait eu un cas où il y avait un cheval qui était sur la liste électorale. Le gars avait réussi à faire passer son cheval sur la liste électorale. Puis il avait été voté pour le cheval. Évidemment, le tour des cimetières aussi, il allait voir les pierres tombales.
Oui, puis ils inscrivaient sur la liste électorale. Oui,
ils s'inscrivaient sur la liste électorale.
Mais ça, les morts votaient. C'était le bon temps où les morts votaient.
C'est bien oui, mais là...
Donc, on avait des taux de participation très élevés. Ah, notamment parce que les morts votaient et les absents votaient aussi.
Non, c'était des taux super élevés.
Mais n'empêche qu'on a maintenant un des systèmes les plus sécuritaires, qui nous semble plus sûr, puis on est là à Gaspé dans une situation qui est incompréhensible. C'est incompréhensible que 175 votes aient reviré de bord dans le deuxième comptage.
En effet.
Dans le deuxième décompte.
Il y a Anguille sous Roche.
Il y a la boîte 61 n'est pas dans Darcy McGee, c'est peu probable. C'était peu probable en partant, oui. C'est le scrutateur, nous dit un auditeur, qui écrit le nombre final avec le secrétaire. S'ils sont de connivence, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Ouais, mais là, ils vont se reprendre, voyons donc.
Mais si je suis le raisonnement de la personne qui nous a écrit ça, ouais. En d'autres mots, quand t'as fait le recomptage, t'as les vrais votes alors que le papier n'était pas la vraie chose. C'est ça que je comprends, là?
Ouais.
Comme ils ont écrit un nombre qui correspondait pas à ce qui était dans la boîte.
C'est ce que soupçonne cet auditeur.
Ah bon?
Alors, c'est vrai que... Écoute, c'est absurde, là. Qu'on arrive à virer de bord lors d'un recomptage 173 votes, moi, là, j'ai jamais vu ça.
Ben, moi non plus.
De mémoire,
là. Ben, je sais pas, hein, dans le cas de Jocelyne Ouellet, c'était un 200 votes.
T'es tant que ça?
Ah oui. Ah, mais ouais? Je te le dis, souvenons-nous, c'était l'époque où si t'avais dépassé le petit point où t'avais le droit d'écrire ton vote, ben là, le juge décidait, non, ça c'est pas bon. Ah non, ça c'est pas bon.
On était plus tatillons sur les signes éventuels à cause des histoires de frigidaire que je t'ai racontées.
Tout à fait, oui.
Puis aussi, les élections étaient très lourdes de conséquences dans ces années-là. Moi, je me rappelle avoir trouvé, j'ai habité un bout de temps avec quelqu'un qui avait la maison familiale. Et dans une boîte à chaussures, on a retrouvé les lettres adressées à le grand-père, qui était un organisateur libéral. Les lettres adressées dans le genre, maintenant que les rouges sont passés, j'espère que vous allez tasser le gars de la grade de la municipalité qui est un bleu.
Ah ben oui.
Puis là, c'était toute l'économie des villages qui changeait. Là, la fortune changeait de bord, si tu veux.
Je me souviens d'un député du Parti québécois, ministre du gouvernement de René Lévesque, qui s'appelait, je crois, Yves Bérubé, qui avait été élu dans Matane. Mmh. Et lui, c'était un professeur d'université, si ma mémoire est bonne.
C'était celui qui avait un petit collier de barbe tout petit. Oui, hein? Oui, je me rappelle de lui.
Et lui avait raconté, à un moment donné, dans un repas où j'étais présent, que lui, bon, c'était une sorte d'intello là, qui s'en va en politique, puis qui se fait parachuter dans Matane, puis qui se fait élire sur la queue de côte, comme on dit, de René Lévesque, puis de la vague péquiste de 1976. Alors, la première semaine qui est député, puis qui fait sa première semaine de bureau de comté, il n'avait jamais fait ça de sa vie, il savait pas comment ça marchait. Alors là, il s'est présenté des gens par derrière l'autre, dire, écoute, c'est moi qui ai le contrat. Il appelait ça des contrats de boule.
Oui.
Pour bulldozer. C'est ceux qui déneigeaient. Écoute, c'est vrai que moi, je suis associé au Parti libéral, mais mon fils, là, c'est un péquiste. Je l'ai amené avec moi quand je vais te le présenter, Gab. Bon, mon fils, t'as voté pour qui? Ben, moi, j'ai voté pour le PQ. Hey, fais-nous pas perdre nos contrats de boule, là. Moi, j'ai même pas fini de payer le mien, là. Alors, là, tu me vas. Il dit, moi, j'étais ahuri. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire de contrat? Et là, il y avait le monde des avocats qui s'agitait. Tous ceux qui avaient les mandats gouvernementaux d'agir, soudainement, ils se faisaient retirer les dossiers. Puis ça se retrouvait dans les mains d'un autre gang.
Et il y en a plusieurs qui m'écrivent en disant « À quand le vote électronique, ça va tout régler? » Non, ça règle. Au contraire. Regardez
il y a
comment...
Il l'expérience américaine de 2000, l'élection de George W. Bush contre Al Gore. Et le problème, il était en plein là. C'est qu'il y avait, non seulement il y avait un vote électronique dont tu ne peux pas vérifier... Tu sais, c'est dématérialisé quand c'est électronique. Il n'y a pas de trace véritable une impulsion électrique. Et pire encore, dans le cas des Américains, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, les élections fédérales, les élections pour la présidence, sont gérées par les États. Donc, les règles ne sont pas les mêmes dans le Maryland ou dans l'État de l'Idaho. Ça dépend des traditions remontant au début de la République. Alors, dans le cas de la Floride, il y avait des comtés où ils avaient voté en papier, puis d'autres où ils avaient voté des districts où ils avaient voté électronique. Alors, comment tu fais pour faire l'équivalence? C'est sur cette base-là que la célèbre juge Sandra O'Connor avait finalement arrêté le décompte. Je pense que l'histoire va le retenir contre elle parce que au moment où elle a arrêté le décompte, c'est-à-dire, quand je dis elle a arrêté le décompte, c'est la Cour suprême qui l'a arrêté, mais c'est elle qui avait le vote déterminant. Quand elle a mis son vote là, bang, le décompte s'est arrêté, puis celui qui était en avance au moment de l'arrêt du décompte
a gagné,
George W. Bush. Puis à ce jour, l'histoire retiendra toujours que son élection n'a peut-être, et même, je dirais, probablement pas été complètement légitime.
Puis tu peux ajouter à ça que si tu dis au dynamique directeur général des élections du Québec d'informatiser le système, ça va être un party informatique innommable, épouvantable et extrêmement coûteux.
On va recommencer avec l'histoire de Paul Hood là, qui nous racontait la semaine dernière ou il y a deux semaines. Là. On va avoir des marxistes-léninistes. Ben, faut dire que... On l'a fait, là, contrairement...
On a élu des marxistes
léninistes. Ben oui, c'est ça, on a élu.
On n'a même plus besoin de l'erreur d'un ordinateur pour faire ça. Nous
on est capable.
11h18.